Le journal des sciences.
Et on commence, comme je le disais tout à l'heure en présentation de cette émission, par de l'eau après Europe, après Ganymède. Voilà donc qu'il y aurait de l'eau sur un satellite de Saturne cette fois. Dionée, Xavier.
Oui, Dionée, un des 62 satellites de Saturne. Il est petit, à peu près 1100 km de diamètre, mais il aurait effectivement un océan d'eau liquide de 100 km de profondeur environ sous sa croûte glacée. Ce sont les scientifiques de l'Observatoire Royal de Belgique qui l'ont découvert. Ils connaissaient déjà la cartographie de Dionée, mais en fait ils ont réutilisé ce qu'on pourrait appeler la vieille sonde maintenant Cassini en orbite depuis 12 ans autour de Saturne pour produire de nouvelles images et surtout de nouvelles données gravitationnelles, c'est-à-dire étudier les légères variations de l'orbite de la sonde. Cette annonce est donc intéressante. La présence d'eau liquide est avérée sur deux satellites de Saturne, déjà Titan et Encelade, en voilà un troisième. Et puis cette découverte vient s'ajouter, vous l'avez dit, à une série d'autres au sujet d'Europe, un des satellites de Jupiter, de Proxima B, on en parlait la semaine dernière, la plus proche des exoplanètes. Alors on savait déjà l'espace plein d'eau en un sens, H2O est assez aisé à trouver. Mais pourrait-elle être beaucoup plus présente qu'on ne le croyait à l'état liquide sur des astres aperçus et perspectives par le planétologue à l'Observatoire Royal de Belgique et co-auteur de l'étude, Michael Beuth.
On essaie d'expliquer à la fois le champ gravitationnel de la planète et la forme de la planète. Enfin, je parle de planète, mais de la Lune dans ce cas-ci. Et normalement, le champ gravitationnel dépend de la forme. Mais on remarque ici que les anomalies gravitationnelles sont beaucoup plus petites que celles prédites par le relief observé à la surface. Donc, on en déduit qu'il y a aussi un relief sous-marin. Donc, il y a une interface de densité à l'intérieur entre la glace et l'eau qui change l'anomalie gravitationnelle observée par la sonde. Donc, la couche de glace fait à peu près 100 km, l'océan fait à peu près 60 km et le reste, c'est le noyau rocheux. On peut s'attendre à des océans dans beaucoup de ces satellites. On a fait des modèles d'évolution, des modèles thermiques et qui nous donne une certaine idée qu'on peut avoir un océan dans les satellites. La présence d'eau liquide est une condition sine qua non jusqu'à présent d'habitabilité. Le problème, bien sûr, est celui de l'accessibilité. Comment peut-on tester maintenant s'il est véritablement habité? Donc pour Dionée, cela semble assez difficile vu l'épaisseur de la couche de glace. Par contre, pour Encelade, on a des geysers qui sans doute proviennent directement de l'océan, qui ne se trouveraient qu'à quelques kilomètres sous la surface au pôle sud. C'est aussi un résultat de notre étude. Mais malheureusement, il n'y a pas de mission prévue vers Saturne, ni vers Uranus ou Neptune, où il pourrait aussi se trouver d'autres mondes océaniques. Donc pour l'instant, c'est plutôt Europa qui serait candidat, Encelade aussi. Maintenant, il ne suffit pas d'être un monde océanique, avoir un océan souterrain, pour remplir les conditions d'habitabilité. Pluton ne serait certainement pas un bon candidat non plus, même s'il y a peut-être un océan sur Pluton.
Voilà, est-ce que cette eau dans les satellites autour de Jupiter et de Saturne remet en question la notion de zone d'habitabilité? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure, Xavier, avec nos invités. En bref, après Kennedy et la Lune, Obama et Mars.
Oui, Obama dans une tribune sur CNN qui annonce vouloir poser des hommes sur Mars. Le projet est à peu près le même que pour Kennedy. L'emphase aussi, poser des hommes donc et les faire revenir en sécurité. Mais surtout, l'aventure va beaucoup plus loin. Mars, c'est 225 millions de kilomètres, donc 1000 fois plus loin que la Lune. Et puis, il s'agit surtout à terme d'y rester pour une longue durée, écrit Barack Obama. La NASA aurait la main sur le programme avec son super lanceur, vous l'avez entendu, SLS. Mais elle mise surtout beaucoup sur un partenariat avec les constructeurs privés, puisque 6 d'entre eux, dont Boeing et Lockheed, doivent présenter des modules habitables d'ici 2018 afin de les tester. D'où le coût étonnamment faible de ce développement. Pour l'instant, 65 millions de dollars, dont 20 millions payés par le privé.
Et la Lune, justement, se fait des gommages express tous les 80 000 ans.
Et oui, on pouvait donner jusqu'ici à la surface de la Lune l'âge de 95 millions d'années, c'est-à-dire au moment de sa formation, mais en fait, elle serait beaucoup plus jeune, elle se renouvelle tous les 80 000 ans, en fait, sous l'effet d'un bombardement continu de petits astéroïdes. Alors pourquoi n'avait-on rien vu avant? Les scientifiques de l'Université d'État du Texas qui ont fait cette découverte ont travaillé en fait à partir de photographies de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, des photographies de très haute précision, autrement dit, il suffisait de voir mieux et plus près les astres plus petits qui bombardent constamment la Lune, donc des roches de quelques centimètres à quelques mètres, mais sans atmosphère pour les freiner et atténuer l'impact. Deux conséquences, donc la surface de la Lune avec 180 bombardements par an est donc plus jeune, mais aussi plus dangereuse. dangereuse qu'on ne le croyait.
Et pour finir, en bref toujours, avec l'espace, l'univers est plus encombré que ce qu'on pensait.
Et oui, 2000 milliards, là c'est le chiffre avancé par une équipe de l'université de Nottingham en Grande-Bretagne, 2000 milliards de galaxies, 10 fois plus que ce qui était admis par la communauté des astrophysiciens. Alors encore une fois, c'est Hubble, le télescope, qui a principalement servi à cette découverte pour produire une carte en 3D de l'univers visible et moins visible. Mais attention, ce ne sont pas de nouvelles mesures, il s'agit bien d'une étude statistique qui extrapole en fait des données bien compilées sur l'univers connu. Pas sûr donc que le chiffre de 2000 milliards de galaxies fasse rapidement consensus. D'ailleurs, l'année dernière, deux physiciens du Michigan avaient affirmé qu'il y avait 10 fois moins de galaxies, soit 20 milliards. Là aussi, ils avaient utilisé une méthode statistique.
Un mot, Sébastien Carassou, sur cette information?
Alors, ça fait pas encore consensus, donc forcément, c'est difficile.
Deuxième sujet du jour, Xavier, les abeilles sont-elles sur le point d'être sauvées ?
En tout cas, la résilience, c'est le terme qu'a choisi le magazine La Recherche pour évoquer plus de 3 décennies d'études et de tentatives pour prévenir la surmortalité qui affecte les colonies d'abeilles depuis les années 80. Surmortalité bien connue sous le nom inquiétant de syndrome d'effondrement des colonies. Alors, pesticides, parasites, pratiques agricoles, les causes sont multiples et commencent à être bien identifiées. Mais les remèdes sont longs à mettre en place. Les dernières études de cette année révèlent toujours une mortalité importante et une grande sensibilité, notamment aux pesticides dits néonicotinoïdes, parce qu'ils contiennent des dérivés de nicotine. Et l'analyse, par exemple, de 18 ans de données en Grande-Bretagne en août montre qu'elles sont 3 fois plus affectées, ces abeilles, par les colzas traités avec ces fameux néonicotinoïdes. En France et aux États-Unis, ces pesticides font l'objet d'une lutte économique et juridique, mais les parasites, qui sont aussi une des causes majeures de mortalité des abeilles, sont également visés. Et là, la biologie intervient, notamment pour fabriquer des abeilles plus résistantes au varroa, le parasite qui met entre 6 mois et 2 ans pour tuer une colonie entière. Écoutez Fanny Mondet, elle est ingénieure de recherche à l'INRA d'Avignon.
Le varroa, donc, c'est un petit peu comme un vampire, il se nourrit du sang des abeilles adultes et aussi des jeunes abeilles. Donc la conséquence, c'est que ces abeilles vont naître plus légères, elles vont avoir une durée de vie limitée. Et un deuxième facteur très important, c'est que ce parasite, le varroa, il est associé avec un certain nombre de virus qui peuvent, eux, avoir des conséquences très graves pour les abeilles et conduire à leur mort. Sur le varroa, on essaye d'intervenir, notamment en essayant d'avoir des abeilles qui, naturellement, vont être capables de mieux lutter contre le parasite. On a remarqué que, en fait, il y a un certain nombre d'abeilles qui, même lorsqu'on ne les traite pas contre le varroa, sont capables de survivre. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver des signatures dans le génome des abeilles qui permettent d'expliquer pourquoi elles résistent ou pourquoi elles ne résistent pas. Et l'idée ensuite, ce serait de faire un outil de diagnostic à destination des apiculteurs. Mais évidemment, c'est très difficile aujourd'hui de hiérarchiser les facteurs de stress qui impactent les colonies entre les maladies, la pression chimique, la destruction de l'habitat, le manque de nourriture par exemple. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces facteurs fragilisent les abeilles. Et par exemple, une abeille qui va être parasitée par le varroa, elle est un petit peu fragilisée, elle ne va pas forcément mourir, mais peut-être qu'ensuite elle va être plus sensible à l'exposition à un pesticide et in fine, cette exposition-là va peut-être la faire mourir. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'exposition au pesticide qui directement l'a affectée.
Voilà Fanny Mondel, l'INRA d'Avignon. J'ajoute que sur le plan politique pour la France, l'interdiction des néonicotinoïdes entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
Et un droit de réponse maintenant, Xavier. Suite à l'émission de lundi, la méthode scientifique qui était consacrée à la vaccination.
Oui, à la méfiance aussi, voire la défiance qui se développe depuis des années dans une partie de la population et du corps médical. Il était notamment question de Romain Guérardi, qui est spécialiste des maladies neuromusculaires à l'hôpital Henri Mondor et qui est depuis des années acteur d'une controverse sur les effets secondaires des vaccins, des sels d'aluminium en fait utilisés comme adjuvant. Et il ajoute qu'il ne veut pas être classé comme un détracteur borné des vaccins. En fait, il tenait à donner quelques précisions sur sa position. Disons pour une recherche préventive. Écoutez Romain Guérardi.
Plutôt que de nier farouchement l'existence d'effets secondaires des vaccins, qui est une manière de ne pas traiter le problème, il faut au contraire que les agences sanitaires se saisissent des signaux et les traitent de façon proactive et financent de la recherche sur le sujet, parce que quand on comprend les mécanismes, c'est la solution qui est à terme. Par exemple, l'ANSM, l'agence actuelle de médicaments, a débloqué 150 000 euros en 2013 pour nos recherches. Eh bien, le résultat immédiat, ça a été l'identification des premiers gènes de susceptibilité qui explique la difficulté de ces individus à évacuer l'adjuvant de leur système immunitaire. Et donc, ça prépare la vaccinologie individualisée qui donc est fondée sur la détection des familles ou des individus qui vont avoir une intolérance aux adjuvants aluminiques et qui sont forcément une petite proportion. Mais donc c'est ça le sens de mon livre, c'est de dire, plutôt que d'évacuer le problème et dire il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose, il faut dire il y a quelque chose et on traite de façon proactive la question parce que quand on aura éclairci la question, on va trouver la solution.
Voilà, et pour finir, Xavier, la science improbable du jour, vous nous dites tout sur un rat taupe qui n'a jamais mal. C'est un peu vous, ça, non?
Eh oui.
Bon, c'était pas très gentil, pardon.
Moi ou non, tout le monde le connaît, en tout cas, au moins en cauchemar. C'est le rat taupe nu. Rat parce qu'il fait la taille d'un gros rat, 10 à 30 cm. Il a deux paires d'incisives très longues qui dépassent du museau un peu comme un bec. Taupe parce qu'il vit sous terre. Et nu car il est complètement glabre, ou presque. La peau blanche, un peu flétrie. C'est d'ailleurs son nom. Hétérocéphalus glabère. Il est presque sans yeux ou oreilles. C'est une sorte d'embryon souterrain avec des grosses pattes en pelle pour creuser. Eh bien, après une série d'expériences comparatives avec des souris, des chercheurs allemands se sont aperçus que ces bêtes ne ressentaient pas la chaleur et que cela était dû à la modification d'un de leurs gènes lié à un récepteur sensitif. Rassurez-vous donc, ce sont des expériences de biologie moléculaire, il ne s'agissait pas de mettre le feu aux rongeurs et c'est une évolution génétique en tout cas bien pratique pour un peuple qui vit en colonie sous terre où il fait très chaud et évolution qui vient ajouter une caractéristique surprenante à celle que l'on connaissait déjà, morphologie, social, biologique. Jusqu'à l'année dernière, on croyait encore qu'il résistait d'ailleurs au cancer. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait donc presque tout. Autrement dit, Nicolas, le rat est nu.